Radio Okapi.
Le journal Bibi Mkonkole.
Okapi.
À la une de ce journal, deux combattants du M23 se sont rendus au phare d'essai à Rutshuru Centre dans le Nord Kivu. Occasion pour le commandant du 42e bataillon de la force rapide des phares d'essai d'inviter d'autres mutins à regagner les rangs de l'armée nationale. Le monde se mobilise contre le sida. Ce soir à Washington se tient la 19e conférence mondiale sur cette pandémie. La RDC y est représentée avec une importante délégation. Martin Sebujangwe nous en dira plus depuis la capitale américaine. À Mbandaka, plus de 42 millions de francs congolais sont introuvables. Cette somme était collectée par les parents d'élèves pour construire un bâtiment administratif dans la Chuapa. Madame, Monsieur, bonjour. Reddition il y a deux jours de deux éléments du M23. Leur présentation est intervenue ce matin par les responsables du commando de force de réaction rapide de Fardessé à Rutshuru Centre. C'est à 72 kilomètres au nord de Goma. Ces personnes disent avoir combattu aux côtés des mutins lors des récents affrontements entre les Fardessé et les rebelles du M23. Le commandant du 42e bataillon de la force rapide rassure la population sur leur détermination à rétablir l'intégrité du territoire national. Il appelle tous les éléments pris en otage par le M23 de rejoindre l'armée nationale. Les détails avec vous, Lievin Mwinga.
L'appel de cet officier supérieur du commando de la force de réaction rapide FRDC intervient après la reddition des deux éléments du M23. Sur un ton rassurant, il reconnaît la prise en otage de beaucoup de citoyens congolais par ce mouvement rebelle. Je les appelle donc à rejoindre l'armée régulière qui a mandat de rétablir la paix et l'intégrité du territoire national, déclare le commandant du 42e bataillon de la force rapide à la presse. Pour le lieutenant-colonel Mamadou Ndala Mustapha, la reddition de ces deux éléments fait suite aux échanges de tirs entre les FARDC et le mutin du M23 au-dessus de Kiringa. C'est à l'est du chef-lieu du territoire de Rutshuru. Ces deux mutins rendus au FARDC sont des différentes nationalités selon leur propre témoignage. L'un se dit congolais. Il affirme avoir été enrôlé de force dans la brousse aux alentours de Buvunga dans le territoire de Rutshuru. L'autre dit avoir été recruté alors qu'il venait de Rwenyeri au Rwanda, son pays natal, pour une visite familiale à Kibumba, un peu plus au nord de Goma. Le lieutenant-colonel Mamadou Ndala Mustapha dit attendre les ordres de sa hiérarchie pour une quelconque décision. En outre, il appelle les habitants de Rutshuru au calme et les invite à la vigilance.
Direction les États-Unis où la 19e conférence internationale sur le sida s'ouvre ce dimanche soir à Washington. Cet événement est organisé tous les deux ans par la Société internationale du sida avec d'autres partenaires dont le Fonds mondial. Chercheurs, cliniciens, responsables politiques, personnes vivant avec le VIH ainsi que les acteurs de la société civile se retrouvent donc pour trouver le moyen de faire reculer la pandémie. C'est ce qui justifie du reste le thème choisi de cette conférence, qui est inverser le cours de l'épidémie ensemble. Depuis Washington DC, Martin Sebujangwe.
Si de nombreux progrès sont obtenus dans plusieurs pays dans la lutte contre cette pandémie, il est à noter cependant que dans d'autres pays, des problèmes demeurent. Entre autres celui de l'accès aux médicaments les plus récents, la disponibilité des analyses pour les suivre et la lutte contre la stigmatisation. Les choix du thème « Inverser le cours de l'épidémie ensemble » témoignent encore des efforts à mener dans la lutte contre le VIH-SIDA. La RDC est aussi présente à ces assises. Une délégation d'une vingtaine de personnes conduite par le ministre de la Santé est sur place depuis ce week-end à Washington. Un des membres de cette délégation nous a affirmé qu'au cours de cette conférence, le gouvernement va partager avec d'autres nations et partenaires les différentes expériences vécues sur le terrain, mais aussi les responsables nationaux doivent plaider pour qu'une attention particulière soit accordée à plus d'un million de personnes touchées par le VIH en République démocratique du Congo. Rappelons qu'au cours de cette semaine, des organisations non gouvernementales ont appelé les gouvernements à améliorer l'accès aux antirétroviraux. Ils ont accusé le gouvernement de ne pas voter un budget spécifique pour lutter contre ce fléau. Depuis Washington DC, Martin Sebujangwe, Radio Okapi.
Toujours dans ce chapitre santé, 10 morts en une semaine de suite d'une maladie inconnue dans deux chefferies du territoire distingué dans la province orientale. Selon la société civile, il s'agit des enfants de 0 à 5 ans de Kombe et Luitia. Ils sont situés à environ 150 km à l'ouest de Kisangani. Le médecin chef de zone de santé distingué parle de quelques cas de complications de paludisme. Le docteur Charles Lobanga fustige la négligence des parents. Selon lui, ils n'amènent pas à temps leurs enfants au centre de santé. Le point avec Joseph Bassay de la radio Bondeco à Isangi.
La société civile des chefferies de Kombe de Lutoa a dénombré ses 10 morts dans 4 villages au cours de la semaine dernière. La maladie attaque les enfants de 0 à 5 ans. Les malades demeurent dans moins de 6 heures suite à une forte fièvre et à la convulsion. Pour les présidents de la société civile de Kombe, la résurgence de cette maladie inquiète plusieurs parents déjà terrorisés par d'autres pathologies comme la rougeole. Conséquence, ils préfèrent consulter les traduits praticiens, croyant tous à un mauvais sort. De retour en mission dans ces coins, le médecin chef de centre de santé Disangui parle de quelques cas de paludisme aigu. Le docteur Charles Lobanga fustige plutôt l'abandon des enfants par leurs parents préoccupés par la récolte du riz et des chenilles. Les enfants restés seuls à la maison contractent les maladies et personne ne peut les amener dans une structure de santé, dit-il. Pour lui, la situation n'est pas encore grave. Le médecin chef de zone de santé cite 4 malades se trouver au centre de santé. Les 10 victimes sont décédées à la maison ou chez les traduits praticiens. Isangi, Joseph Bassay de la radio Bondeco pour Radio Okapi.
Province de l'Équateur, détournement de l'argent collecté par les parents d'élèves pour la construction d'un bâtiment administratif dans la Chuapa. L'association des jeunes de la cité de Boindé hausse le ton. Ils dénoncent ce vol car le bâtiment doit abriter la division provinciale de la province éducationnelle de l'EPSP Équateur 3. Donc aucune trace de plus de 42 millions de francs congolais générés par cette collecte. Du coup, la société civile de la Chuapa vient de saisir le commissaire de district qui a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Le point avec Dominique Wolombi.
Selon Mustapha Bosengue, président de la société civile de la Chuapa, c'est depuis 2010 que l'ancien chef de division provinciale de la province éducationnelle de l'EPSP Équateur 3 a lancé cette collecte. Chaque élève a dû donner 200 francs congolais. À en croire les présidents de la société civile, pour l'ensemble des élèves de cette province éducationnelle, la collecte devait générer 42 millions de francs congolais. Et pour cette année 2012, le nouveau chef de division provinciale a majoré les taux de la collecte de 200 à 400 francs congolais. Et les parents d'élèves de la 5e primaire à la 6e secondaire ont mis la main dans la poche. Mais seulement voilà, la construction du bâtiment administratif de la division provinciale n'a à peine commencé. L'association des jeunes de la cité de Boindé dénonce et crie au détournement. La société civile de la Chuapa, après investigation, confirme ce qu'elle qualifie d'escroquerie sans précédent des parents d'élèves de la Chuapa. Elle a saisi les commissaires des districts pour faire la lumière sur cette affaire et établir les responsabilités des personnes impliquées. Celui-ci a ouvert une enquête, mais cette enquête est suspendue pour l'instant suite à l'absence à Boindé de certains membres du comité de gestion de l'argent de cette collecte. Mbandaka, Dominique Olombi Mongapangi, Radio Okapi.
Le reportage du week-end nous emmène au Kasaï oriental où l'ONG des centres d'initiation et de fabrication des matériels didactiques veut réussir un pari, à savoir former les enseignants dans l'utilisation de matériel didactique. Le CIFAMAD fabrique ces matériaux et dispose déjà de 1000 articles. D'après le directeur de cette ONG de développement de l'enseignement, les matériels didactiques font défaut dans un grand nombre d'écoles, ce qui est à la base de la baisse du niveau de l'enseignement. Que faire pour mettre une bonne assimilation des leçons par les élèves? Réponse dans ce reportage de François Tchibenji.
C'est d'abord initier les enseignants à l'utilisation et à la fabrication des matériels didactiques, du moins pour ce que l'on peut fabriquer à partir des papiers Bristol. C'est la mission qui s'est confiée l'ONG CIFAMAD. Les formateurs sont sur terrain dans différentes sous-divisions de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Victor Chibango, directeur de CIFAMAD.
Les enseignements abstraits ont rendu trop faibles nos enfants. Nous avons beaucoup d'enseignants qui ne connaissent pas l'importance du matériel didactique. Peut-être qu'ils ont même du matériel didactique dans leurs écoles, mais ne les utilisent pas. Chaque fois qu'il y a des leçons bâclées qui sont données dans l'abstrait, les enfants ne retiennent rien et ils deviennent très faibles.
Ces différentes formations ont pour objectif d'exiger la rigueur chez l'enseignant, recourir au matériel didactique pour une bonne assimilation des leçons. Les chefs d'établissement et enseignants reconnaissent l'importance des matériels didactiques.
Quand l'enfant observe, il voit le matériel, ça reste dans la mémoire. Mais avec CIFAMAD, je pense que ça sera un grand apport pour nous autres.
Rappelons que l'idée de former les personnels enseignants à l'utilisation des matériels didactiques est née avec les assises de convention scolaire d'avril dernier. L'ONG Sifamad a mis le matériel didactique déjà fabriqué. La formation a été une première étape. Mbouji Maï, François Sibenji, Radio Okapi.
Terminons avec le sport. Le match de la deuxième journée de la Champions League africaine se joue tout à l'heure à Lubumbashi au coup de 15h30 heure locale. Le tout puissant Mazembe rencontre la formation correspondante de Berikoum Chelsea du Ghana. À Lubumbashi, la mobilisation est forte et totale. Retrouvons sur place à Lubumbashi Jean Guindou qui nous décrit l'ambiance qui y prévaut.
Déjà, plusieurs centaines de Louchois prennent le chemin du stade tout-puissant Mazembe de la commune Kamalondo. Toutes les voies d'accès au stade sont barricadées. Les éléments de la police nationale filtrent tous les passages. Tous ceux qui passent par ces barrières doivent exhiber leur billet d'accès au stade et seuls les véhicules ayant payé le parking sont autorisés à passer. Tout autour du stade, plusieurs personnes se regroupent. La plupart arborent les drapeaux de l'équipe de tout-puissant Mazembe. Les autres cherchent vainement à acheter le billet d'accès. Aucun n'est disponible. Au même moment, au stade tout-puissant Mazembe, aucun détail n'est négligé. On procède au dernier réglage. Coup de balai par ici, coup de brosse par là. Objectif, réussir ce grand rendez-vous. Et ceux qui ont les billets en main envahissent déjà les gradins. Pendant ce temps, parmi ceux qui se rendent au stade, les péripéties de ce match dominent les conversations. À l'optimisme des uns de voir les corbeaux l'emporter largement, se greffe la prudence des autres qui ne veulent pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Lubumbashi, Jean Guindou, Radio Okapi.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.